Bonjour Raymond Richard au micro. Eh bien, nous nous retrouvons pour l'émission Jumelage, et notamment les jumelages européens. Donc il y a autour de ce micro Monsieur Bourgès-Manoury, et puis vous, Monsieur, à qui je vais vous demander de vous présenter.
Philippe Tarisson, je travaille à l'Association française du Conseil des communes et régions d'Europe. Le sigle, c'est AFCCRE. Et je m'occupe des jumelages et des partenariats entre les villes françaises et leurs partenaires européennes.
Alors, on va parler donc du Conseil des communes et régions d'Europe. C'est quoi ça ?
Alors, c'est une fédération d'associations nationales. Donc, il y a un peu partout en Europe. Il y a une structure de représentation membre dans tous les pays de l'Union européenne et plus large. Donc, on va dire en gros l'Europe du Conseil de l'Europe. Et c'est une organisation qui est une organisation à vocation militante, c'est-à-dire pro-européenne. Et qui notamment fait la promotion de la place des collectivités territoriales dans la construction européenne, dans le projet européen, notamment à travers la défense d'un grand principe qui est la défense de l'autonomie locale. Ça, c'était le principe de base, c'était l'idée de dire que si on veut défendre l'autonomie locale, et là, c'était déjà dès les années 50, hein, la création, autant travailler ensemble, comparer ce qu'on fait dans nos différents pays et pouvoir, à travers le fait que certains pays sont plus ou moins avancés en matière d'autonomie locale, ensuite revenir vers nos États nationaux, nos gouvernements centraux, et puis défendre la cause et faire en sorte qu'il y ait plus de décentralisation. Et puis la deuxième partie, c'était l'idée d'organiser des échanges, de l'invention du jumelage, ou en tout cas la reprise du principe et l'extension du principe en disant les échanges entre villes jumelées, et les jumelages, ça permet de, disons, faire vivre l'Europe concrètement. Et là, je vous parle aussi de l'invention de ce mouvement qui a démarré juste après la Deuxième Guerre mondiale, avec Bordeaux et Bristol, avec Orléans et Dundee, et puis un petit peu plus tard avec des communes allemandes. L'idée, c'était de dire on essaye de créer un espace de paix, on essaye de créer un espace politique. Pas simplement économique, mais et que justement cet espace politique, on peut le créer ou le renforcer à travers en se rencontrant entre élus, entre représentants locaux, mais aussi entre simples citoyens, qu'on soit des jeunes, des adultes, qu'on soit pratiquant d'une discipline sportive ou amateur de telle ou telle activité, pour pouvoir la partager avec des personnes de notre pays. Et c'est une idée qui a plutôt pas mal marché.
Oui, et ça marche encore ?
Oui, puisque on peut dire déjà qu'en termes de nombre, ça a plutôt bien marché, puisqu'on a à peu près, on a presque 4300 communes françaises jumelées avec plus de 6500 partenaires européennes. Donc, et ça continue, il y a toujours à peu près entre une cinquantaine et une soixantaine de nouveaux jumelages de communes françaises par an.
Donc, là, c'était le chiffre national.
Voilà. Et la France est un des pays les plus actifs en matière de jumelage, comme je le disais. Et puis avec l'Allemagne notamment. Hein. Et puis d'ailleurs, les deux pays où il y a le plus de jumelage, entre eux, c'est entre la France et l'Allemagne.
C'est à cause de l'OFAGE ?
Pas à cause, simplement...
L'OFAGE, la volonté aussi de se dire...
L'OFAGE a permis, l'OFAGE a facilité, oui, mais on va dire que c'était déjà... C'est surtout grâce au contexte. D'abord, il y avait une nécessité. Il y a des élus dans les années 50 qui se sont lancés les premiers dans les jumelages franco-allemands. On parle de Montbéliard, on parle de Montbéliard avec Ludwigsburg, mais il y avait aussi Sarrebourg, vers Sarrebourg, sa voisine. Les premiers, il y avait aussi Chartres, fait partie pratiquement des premiers jumelages avec Speyer. Je crois que c'était en 1957. Donc ces pionniers qui ont, vraiment donné l'exemple en disant...
Donner l'exemple pour dire on va construire autre chose que...
On parlait d'espace de paix. La CECA avait été créée en 1950 avec les Allemands et les Français et quatre autres pays. Et puis il y avait cette nécessité de rapprochement. Et puis est arrivé en 1963 le traité d'Élysée entre le général de Gaulle et Adenauer, la création de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Et là, effectivement, il y a eu un vrai élan des jumelages franco-allemands, parce qu'on avait un cadre à la fois politique, c'est-à-dire que Tout était fait et tout était prévu.
Il y avait un cadre politique, il y avait de l'argent, il y avait une volonté aussi d'effacer les séquelles de la guerre. Pas de les effacer, mais de les surmonter ou de les dépasser.
Oui, oui, de les surmonter et effectivement de les éviter. Mais voilà, il y avait tout un contexte qui a fait que ce type d'échange entre villes jumelées a pu se développer du côté français-allemand. Je suis sûr que si on avait utilisé la même méthode avec d'autres pays, on aurait aussi eu un fort développement au niveau bilatéral. Mais parce que donc, du côté franco-allemand, voilà, maintenant, s'il y a des jumelages qui marchent bien, qui sont pérennes, qui durent, même si certains n'ont pas beaucoup d'activité, mais en tout cas, les deux côtés y tiennent vraiment. C'est une question de principe. On lâche pas. Et ça, c'est très important. Et on n'a peut-être pas ça au niveau... Dans des relations avec d'autres pays. On ne trouve pas ça avec le Royaume-Uni, on ne trouve pas ça forcément avec l'Espagne ou l'Italie. Il y a d'autres raisons qu'il faut que ça marche, mais
oui.
Le contexte franco-allemand est très, très particulier. Et puis maintenant, on a pris des habitudes de travail, de coopération, de confiance. Puis il y a aussi, je pense, une même conception. Au niveau des communes, ça marche bien parce que le fonctionnement est très similaire entre la France et l'Allemagne. On a à peu près les mêmes compétences. Et puis, il y a aussi, je pense, une même culture du service public, quelles que soient les étiquettes politiques. Mais en France et en Allemagne, on a une même culture, ou en tout cas des cultures du service public local qui sont très, très proches. Donc ça crée des affinités. Et puis, voilà, c'est vrai qu'il y a eu des moyens offerts par l'Office franco-allemand pour la jeunesse qui est formidable. Et plus récemment, depuis 2020, a été créé le Fonds citoyen franco-allemand. C'est un tout petit budget, hein, c'est 4 millions d'euros tous les ans, mais ça marche très très bien puisque presque 1000 projets par an sont financés entre des associations françaises et allemandes, des comités de jumelage, des communes jumelées, des groupes de citoyens, et ça marche très très bien d'ailleurs puisque presque 60% des projets qui sont financés dans le cadre du Fonds citoyen franco-allemand, sont des projets qui se déroulent entre villes jumelées. Voilà.
Ah oui.
Voilà.
Alors, ce sont plutôt des grandes villes ou aussi des petits villages ?
Alors, il faut savoir que pratiquement toutes les grandes villes françaises ont au moins une ville partenaire en Europe. Presque toutes. Mais quand on regarde au niveau du nombre d'habitants en moyenne des villes françaises jumelées, donc quand je parlais des 4400 communes françaises jumelées, plus de 80% ont moins de 10 000 habitants. Et les deux tiers ont moins de 5 000 habitants. Donc on est dans un mouvement qui est... Alors quels que soient les pays d'ailleurs... On est dans un mouvement qui est animé plutôt par des petites villes et des petites communes. Voilà.
Là où on se connaît, on fait confiance et puis on se dit on va faire quelque chose.
Et puis je crois, oui, c'est ça, on se fait confiance. Il n'y a pas beaucoup de protocoles. C'est assez proche, c'est assez spontané comme relation. Dans les petites communes, c'est beaucoup des bénévoles dans le cadre du comité de jumelage qui animent les échanges. Donc il n'y a pas de contexte ou il n'y a pas d'arrière-pensée politique ou de contingence politique. Donc c'est assez franc comme relation, assez confiant. C'est aussi un événement. C'est vrai que dans une petite commune, quand un groupe de la ville partenaire arrive, que ce soit des jeunes ou que ce soit une association, une manifestation sportive, ça se voit, ça se sait. Dans les grandes villes, ça passe un peu plus inaperçu. Donc c'est pour ça que c'est aussi ça marche bien dans les petites communes parce que voilà, c'est un vrai événement quand on est reçu, quand on va chez le partenaire, on est bien reçu. Quand on reçoit nos partenaires, on est bien reçu parce que c'est un événement. Alors ça se fait généralement. À la belle saison, ça peut se faire souvent quand à une bonne occasion, c'est-à-dire que quand il se passe quelque chose d'intéressant dans la commune, un festival, une manifestation.
On invite les autres.
Voilà, et on fait partager ça à nos partenaires et histoire de déjà simplement passer un bon moment ensemble, quoi.
Oui, c'est la convivialité
Tout
des
à
personnes.
Fait, ouais. L'art de vivre, la convivialité, l'hospitalité, toutes ces valeurs un peu fondamentales qui sont très importantes, je pense, pour.
Alors, est-ce qu'il y a encore des nouveaux jumelages ?
Alors. Il y en a encore, oui, tout à fait, parce que même si 60% des communes françaises jumelées ont moins de 5000 habitants, il en reste beaucoup qui n'ont pas encore de jumelage. Et donc, on voit à peu près entre 50 et 60 nouveaux jumelages tous les ans. Alors, soit des communes qui n'avaient pas de partenaire et qui ont leur premier jumelage, soit aussi des communes qui avaient déjà une ou deux partenaires et puis qui en trouvent d'autres. Alors souvent, par connaissance ou parce que notre ville partenaire a une ville partenaire dans un autre pays, donc elle nous propose aussi de travailler en triangulaire. Ça marche beaucoup entre France, Allemagne et Pologne, par exemple. Ça a beaucoup marché. Ça marche aussi pas mal entre France, Royaume-Uni et Allemagne. Ça peut être ça. Et puis, voilà, des communes qui se lancent. Là, je sais qu'avec les municipales qui s'approchent, dans beaucoup de communes, il y a dans le projet l'idée de se lancer dans un jumelage ou de trouver une nouvelle partenaire. Et d'ailleurs, nous, en tant que association pro-européenne, on conseille et on encourage les communes à intégrer les questions européennes dans leur vie locale, ne serait-ce que par exemple pour avoir un jumelage, un nouveau jumelage, un premier, un deuxième, ou notamment pour avoir, pour celles qui ont déjà des partenaires, avoir des élus chargés des questions européennes, pas simplement des jumelages des relations internationales, mais plus largement chargés des questions européennes, parce qu'il faut savoir que 70% de la législation communautaire est mise en place localement par les collectivités locales en termes de...
Est-ce que les collectivités locales font aussi des jumelages ?
Alors, c'est une compétence de la collectivité. C'est-à-dire qu'un jumelage, ça s'appelle un jumelage de communes, bien sûr, si les partenaires, les communes, ont signé un accord par la voix des maires respectifs. Voilà.
Ah oui, d'accord. Donc maintenant, ce sont les jumelages qui sont plutôt initiés par les maires. Ou par les municipalités.
Alors, ils sont initiés par les maires parce que ils ont dit qu'ils ont considéré que c'était un projet intéressant pour la vie locale. Oui. Soit ils se sont laissés convaincre, c'est-à-dire qu'on a des groupes de citoyens, des associations qui se montent, des comités de jumelage en disant nous on vous propose, on propose que la commune engage un jumelage avec tel pays. Voilà. Donc les deux sont possibles, mais en tout cas l'autorité qui le jumelage existe si les collectivités ont signé, c'est la tradition d'ailleurs, un accord,
un protocole. On célèbre le jumelage d'un côté et de l'autre.
Voilà, tout à fait.
Alors, la question qui m'intéressait, c'était quelle relation avec les établissements scolaires ? Parce que quelquefois, on voit dans le professeur de langue a envie d'emmener ses élèves quelque part. Mais peut-être la commune n'est pas jumelée avec... l'endroit où ils voudraient aller. Donc là, ça provoque des différends. Alors comment ça se passe là ? Comment vous intervenez ? Peut-être pour faciliter quand même. Vous avez le rôle de trouver des partenaires aussi.
Alors souvent, d'abord, la première chose que je pourrais dire, c'est que si un professeur de langue ou un autre souhaite emmener des élèves de son établissement scolaire dans un autre pays, le mieux, c'est de regarder s'il y a un jumelage dans sa ville. Parce que ça... C'est plus facile, c'est-à-dire que soit s'il n'a pas de contact, mais en tout cas, il va aller trouver soit le service des relations internationales, soit le comité de jumelage pour l'aider à trouver un contact dans une école partenaire, même si maintenant avec Internet, c'est assez facile. Mais en tout cas, ça facilite les choses. Parce qu'en plus, il peut y avoir des moyens mis à disposition par les communes pour...
Pour faciliter.
Faciliter, encourager, subventionner des échanges de jeunes, des échanges d'élèves dans le cadre scolaire. Mais ce n'est pas une évidence, parce qu'en fait, il y a souvent un peu des... Un établissement scolaire n'est pas obligé...
Une agence de voyage, c'est sûr.
Et puis, ce n'est pas une agence de voyage, mais aussi, c'est sûr qu'un établissement scolaire n'est pas obligé d'aller... il a sa propre logique et son propre fonctionnement, c'est-à-dire que l'éducation nationale, c'est une compétence de l'État. Et un établissement scolaire, il va s'impliquer dans le jumelage si, un, il y trouve un intérêt pédagogique. Deux, si on l'aide. Parce qu'il faut savoir que dans le cadre scolaire, les professeurs qui vont accompagner, organiser un échange, ils le font bénévolement. Ils le font en plus de leur travail et avec une responsabilité un peu forte puisqu'il s'agit d'emmener des jeunes dans un autre pays. Donc,
oui, donc c'est vrai que maintenant, ça doit être un peu plus difficile.
C'est pas toujours évident. Mais en tout cas, alors il faut savoir que je pense que la majorité des échanges scolaires entre établissements scolaires français et européens la majorité se passe dans le cadre des jumelages, parce que c'est plus facile. On connaît la ville partenaire, on peut prendre des contacts, on est reçu sur place, etc. C'est une facilité, mais c'est pas une évidence. Et on a souvent des témoignages des comités de jumelage qui sont pas très contents parce que le collège de leur commune ne s'implique pas dans le jumelage, mais malheureusement, ils sont pas obligatoires, ils sont pas obligés de le faire. Donc l'idée, c'est essayer de les convaincre, de les aider et de prendre le temps pour que ces échanges puissent se faire dans le cadre des jumelages. Mais c'est pas forcément une évidence. On a souvent des communes qui nous disent on veut un jumelage parce que ça permettra de faciliter l'apprentissage des langues, ça permettra aux établissements scolaires d'aller organiser des échanges d'élèves. C'est pas évident. Il faut leur demander s'ils sont intéressés, quoi. Voilà. Dans la plupart des cas, c'est le cas. Ça arrive, mais c'est pas toujours le cas. Voilà.
C'est pas toujours le cas. Ouais. Puis des fois, peut-être, il y a en effet cette responsabilité que prennent les profs et qu'ils ont peut-être pas envie de prendre.
Et alors souvent, ce que font notamment les comités de jumelage ou par exemple les services jeunesse des villes, c'est que comme il est compliqué, difficile d'organiser des échanges pendant le temps scolaire, alors ce sont souvent les comités de jumelage, les associations, les clubs qui pallient un petit peu à ça et qui organisent des échanges dans le cadre du temps libre, pendant les vacances. Voilà. Donc ils vont souvent recruter d'ailleurs des jeunes au sein des établissements scolaires, mais qui leur propose des activités d'échange, franco-allemande, franco-britannique, pendant les vacances. On a beaucoup d'échanges scolaires au début de l'été ou à la fin de l'été, juste avant la rentrée.
D'accord.
Enfin, pas d'échanges scolaires, mais des échanges de jeunes, des échanges d'élèves, mais qui se font pendant leur temps libre.
Est-ce que vous facilitez aussi les stages? Parce que, par exemple, des enfants dans un établissement technique peuvent avoir aussi la possibilité d'aller faire un stage professionnel quelque part,
alors,
avec dans un autre pays.
Alors ça se fait, mais pas d'une manière systématique. C'est-à-dire que tout va dépendre s'il y a des dispositifs pour ça. Alors par exemple, l'Office franco-allemand pour la jeunesse donne ce genre de possibilités. Alors nous, notre travail à nous, c'est d'informer les porteurs de projets potentiels, les communes, les comités de jumelage de ces possibilités. Souvent, les gens nous appellent, nous écrivent en nous disant on a une demande d'un jeune qui voudrait faire un stage dans tel ou tel pays, c'est notre ville partenaire, qu'est-ce qui est proposé? Donc y a l'Office franco-allemand pour la jeunesse propose des choses, il y a des programmes européens qui proposent ça, mais c'est plus compliqué à avoir. Erasmus+ le propose, par exemple, il y a une mobilité individuelle, mais en gros il n'y a rien de systématique, c'est un peu les stages, c'est un peu la débrouille, hein. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un jumelage, parce que souvent on peut passer par l'intermédiaire du comité de jumelage ou par l'intermédiaire du service des relations internationales pour dire j'ai un stage à faire à l'étranger, je sais que ma ville est jumelée avec l'Allemagne ou l'Espagne, etc. Est-ce que vous pourriez m'aider à trouver un point de chute, une entreprise là-bas? Et c'est vrai que c'est très efficace pour ça. Voilà.
En termes financiers, est-ce qu'il y a des thèmes ou des aides financières apportées par la FCCRE dans le cadre des jumelages?
Alors, par la FCCRE, non. Nous sommes une association donc à but non lucratif. On n'a pas de programme spécifique pour soutenir les communes dans le cadre des jumelages, mais on a des partenariats, en fait. Par exemple, nous sommes partenaires de l'Office franco-allemand pour la jeunesse et nous avons des petits crédits délégués, une petite enveloppe pour des comités de jumelage ou des communes qui organisent des échanges de jeunes hors du cadre scolaire franco-allemand. Sachant que l'Office franco-allemand pour la jeunesse donne des soutiens, donne des enveloppes, délègue des enveloppes pour les échanges scolaires pendant le temps scolaire au rectorat d'académie. Donc nous, on a la partie. Temps libre. Nous avons un partenariat avec le Fonds citoyen franco-allemand, donc en termes d'information, d'animation, de conseil au montage des projets. Ensuite, le reste, au niveau des dispositifs qui existent, c'est
avec
plutôt
la
du
région,
conseil.
Peut-être.
C'est plutôt du conseil qu'on fait. Hein. On va aider, orienter les porteurs de projets sur tel ou tel dispositif. En général, ça peut être le programme Erasmus+, jeunesse. Il y a un autre programme aussi qui s'appelle le programme Citoyen, Égalité, Droits et Valeurs, qui donne des aides pour des projets entre villes jumelées. mais qui sont, on va dire, plus compliqués à avoir. Il y a des procédures de
Il faut les mettre en œuvre, quoi. Il faut...
Voilà, donc il y a un travail de... Un petit peu un travail en amont en disant, bah, prenez-vous-y à l'avance, voilà où est le formulaire, voilà quels sont les thèmes prioritaires à travailler, etc., etc. Donc c'est notre travail, voilà.
C'est votre travail. Alors là, on a parlé des jumelages avec des jeunes. Il y a des jumelages avec des adultes,
Alors, disons qu'il n'y a
non,
pas de...
Non, parce que là, vous avez parlé des administrations, par exemple, des gens qui disent, bien, nous, ville touristique, on voudrait être jumelé avec une autre ville touristique ailleurs.
Oui, alors sur le principe, rien n'est...
Rien n'est impossible, mais enfin,
rien
n'est
impossible et rien n'est interdit. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, le jumelage, c'est un cadre, c'est un accord entre deux collectivités.
D'accord.
Et en gros, les collectivités s'engagent par la voix de leur maire, à soit organiser, soit faciliter, soit encourager tout type d'échange entre leurs forces vives.
Voilà, d'accord.
Et donc, on a en général trois contextes de coopération. Moi, j'aime bien dire, on a trois chapitres. On a le chapitre. Alors, je dirais c'est pas en ordre d'importance, mais le premier, c'est la coopération territoriale, c'est-à-dire comme on a des échanges entre deux collectivités, autant que les élus se parlent et que le personnel des municipalités se parle sur des thématiques qui peuvent être c'est quoi en ce moment les réalités de la fonction d'élu local, ou ça peut être sur des thématiques du type développement durable, sur la petite enfance, sur la sécurité.
Et
sur,
vous avez ce type d'échange?
Oui, ça existe, bien sûr. Oui, tout à fait. Hein. Ça existe sur des formats plus ou moins longs, mais notamment dans les grandes villes. Il peut y avoir aussi... Donc ça, c'est le premier contexte coopération territoriale. Alors peut-être que les petites communes, d'ailleurs, ne l'occupent pas assez, ça, parce qu'ils ils osent pas, il y a des problèmes de langue, etc. Mais ça, c'est peut-être un...
Puis la fonction territoriale chez eux, lorsqu'il y a une personne, une secrétaire de mairie, c'est peut-être un peu
oui,
juste.
Oui, voilà. Et puis même... Non, mais même, je pense qu'il y a des choses à faire en disant... Mais en échangeant sur la manière de gérer une petite commune en milieu rural, moi, je pense que c'est très intéressant. Mais des fois, ils n'osent pas le faire parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de traduction. Il faut y prendre un petit peu de temps, voilà. Il faut essayer de recevoir des élus et puis du personnel municipal pendant un petit peu plus longtemps que d'habitude. Et souvent, comme les formats des rencontres entre petites communes sont plutôt courts, on n'a pas forcément le temps
d'approfondir les choses, d'aller visiter.
Ça, c'est un terrain à mettre en... Les grandes villes sont très friandes de ce type de projet, d'activité. Le deuxième contexte, c'est le contexte éducatif, mais avec les limites qu'on connaît.
On en a parlé, voilà.
Voilà, qu'on connaît. Et puis, le troisième contexte, c'est le troisième contexte, c'est le temps libre. On va dire c'est les échanges entre toutes les personnes qui, dans le cadre de leur collectivité, pratiquent du sport, une activité culturelle, activité artistique, défendent des causes, etc.
Donc association.
Voilà, en général, structure associative. Voilà, ça, c'est les trois contextes. Et là où c'est bien réussi, je dirais, c'est que quand on arrive à jouer sur ces trois tableaux, quoi.
D'accord. Généralement, les communes qui s'adressent à vous, c'est pour créer surtout des nouveaux jumelages ou elles... Par rapport à tout ce que vous venez de dire, elle s'adresse à vous plus ou moins régulièrement à ce sujet,
oui, régulièrement,
pour mettre en place des actions.
Oui, on a un millier de membres. Et puis on est souvent connus parce que quelquefois des gens qui commencent dans des élus ou des bénévoles qui commencent dans cette activité tapent le mot jumelage et puis voient sur Internet AFCCRE. Donc grosso modo, on a beaucoup de demandes sur comment on fait pour trouver une ville partenaire en Europe. Deuxièmement, c'est « Tiens, on a trouvé une ville partenaire en Europe, on est d'accord pour se jumeler, comment on fait maintenant? Est-ce qu'il y a des contraintes juridiques? Est-ce qu'il faut demander une autorisation? Est-ce qu'il faut s'inscrire quelque part ?» On a beaucoup de demandes sur des collectivités qui nous disent « Bah tiens, j'ai un projet, je viendrais emmener un groupe dans la ville partenaire, est-ce qu'on peut trouver un financement, un soutien pour ça ?» ça peut être des collectivités qui disent bah tiens nous on a travaillé sur un projet, on a trouvé qu'il était intéressant, comment on peut le faire connaître. Alors, on a tout ce type de démarches.
Est-ce que vous pouvez nous raconter quelque chose qui vous a paru tout à fait intéressant dans ces activités?
Ah, je me souviens d'un projet qui c'était il y a longtemps. J'avais été sollicité pour aider une petite commune de Seine-et-Marne, je me souviens, qui voulait déposer un projet dans le cadre d'un programme qui s'appelait à l'époque l'aide communautaire au jumelage, qui est devenu maintenant, qui a été intégré dans le programme Citoyen, Égalité, Droits et Valeurs. Et cette commune de Seine-et-Marne était jumelée avec une commune d'Irlande. Et en fait, le projet était mené par un prof de gym, enfin des profs de gym, qui, lorsqu'ils étaient allés en Irlande, avaient découvert un sport qui est pratiqué que là-bas, qui s'appelle le hurling, qui est une sorte de mélange, pour ceux qui connaissent, qui connaissent pas, le hurling, c'est un mélange de rugby et de hockey. Ça se joue avec une crosse, on court avec une petite balle, et il faut la faire passer dans, il faut taper la balle pour la faire passer entre des poteaux qui ressemblent à du rugby. Et donc ce professeur, et ce sport bien sûr n'existe pas en France, et ce professeur d'éducation physique avait été très intéressé par ça et avait demandé à ses collègues irlandais de faire un échange sportif et de, pendant une semaine, d'initier les jeunes de son établissement scolaire au hurling. L'originalité avait été était en fait que du côté irlandais, bien sûr, le hurling, c'était plutôt un sport pratiqué par les garçons. Et quand ils sont venus en France, les professeurs d'éducation physique ont voulu faire une initiation pour les garçons et les filles. Et ils ont fini par un match de hurling franco-irlandais entre garçons et filles, et ça s'était très, très, très bien passé. Moi, voilà, il y en a plein hein, d'exemples comme ça, mais celui-ci, il m'est resté en tête parce que c'était très, très, très original. Voilà.
Très original, oui. Donc, ça veut dire qu'il y a des tas de possibilités que l'on ignore.
C'est vrai. Après, c'est l'idée d'être curieux, d'aller chercher chez notre partenaire des éléments de sa culture et puis se les faire expliquer, faire les choses dans l'autre sens vis-à-vis de son partenaire, pouvoir partager l'art de vivre. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes hein, dans différents pays. Et puis, on peut en profiter, comme je disais, on peut en profiter en passant des bons moments.
Donc l'imagination est au pouvoir. Voilà. Alors, comment ça se passe en Eure-et-Loir, puisque quand même vous êtes...
Et oui, donc effectivement, j'ai préparé quelques petites données, puisqu'on est en Eure-et-Loir. J'ai regardé, le département d'Eure-et-Loir est un département assez actif en matière
assez
de gymnase.
Assez actif, oui.
Puisqu'on a... 51 communes jumelées en tout, avec 62 partenaires européennes.
Ah oui, donc quand même, c'est...
Oui, c'est assez actif.
C'est une bonne...
Et sur ces 62 partenaires, 58... sur ces 60... Pardon. C'est 51 communes jumelées avec 62 partenaires, dont 58 en Europe. Donc c'est essentiellement, voilà, les jumelages
essentiellement européens.
Avec franco-allemand, hein, bien sûr, franco-allemand en première place, voilà.
Eh bien, merci, monsieur, d'être venu à Radio Grand Ciel pour nous parler de l'importance de ces jumelages et à la fois pour construire la paix, construire les relations entre les personnes et aux uns et aux autres, devenir de plus en plus citoyens européens et citoyens du monde.
Merci. Donc. En tout cas, moi, tout ce que je peux dire, c'est que tous ceux qui sont impliqués dans cette activité, il faut continuer. Si on peut, il faut se renouveler, impliquer les jeunes, mais d'une manière, peut-être de les impliquer sur des projets, les interroger sur ce qu'ils aimeraient faire sur une rencontre. Et puis, c'est aussi, moi, je trouve que c'est une expression que j'utilise beaucoup, les jumelages, c'est... une façon de pratiquer l'Europe c'est une façon de pratiquer l'Europe
dans la vie quotidienne et dans la vie
quotidienne culturelle. Et puis c'est les bons côtés de l'Europe, on va dire. Vous voyez, c'est le voyage, la rencontre, l'art de vivre, la convivialité. C'est les meilleurs côtés de l'Europe.
Voilà, c'est une bonne conclusion. Aux auditeurs, je dis à bientôt sur les ondes de Radio Grand Ciel.